enchères dont les travaux ont notamment servi aux attributions des fréquences télécoms. Voilà pour l'info, excellente soirée.
Retrouvez chaque lundi, de 18h à 20h, toute l'équipe de la rédaction de Sport Plus avec Henri et Willy.
Tous les résultats sportifs régionaux, nationaux et internationaux dans toutes les disciplines, réactions, interviews et des invités chaque semaine. Sport Plus, votre émission 100% sport sur Radio Plus avec Henri et Willy.
Radio Plus, on y est bien.
Auditeurs, auditrices et internautes, et vous qui nous écoutez sur le DAB+, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Sport Plus. Bonsoir Henri, comment
bonsoir,
vas-tu?
Oui. Ça va, oui, ça va. Il pleut pas aujourd'hui,
oui.
Mais il va pleuvoir cette nuit, demain, bon après, voilà quoi. Je plains qu'il y ait les cultivateurs quand même qui ont leurs pommes de terre enlevées, puis qui, pour moi, ça m'étonnerait qu'ils enlevaient tout cette année. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup qui sont enlevés, enfin. De toute façon, j'espère, mais enfin, vu la saison, hein, on arrive le 12 octobre, hein,
oui.
les beaux jours sont terminés, hein, voilà. Il faisait trop sec, maintenant il y a trop de pluie. Voilà. Comme
ouais,
quoi.
C'est hein, maintenant c'est le contraire.
Voilà. Alors, on va parler football aujourd'hui, et on voyait des quartiers défavorisés, sensibles, on a vu que c'est vrai, il y a des problèmes. Justement, on va parler d'un quartier un peu sensible aujourd'hui à Cambrai. Par des manières qui s'est recyclé un peu avec le football. Et pour ce faire, je reçois le président de l'Olympique des membres de Cambrai Amérique, monsieur Christophe Sapper. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également monsieur Jérôme Richer, secrétaire général du club et co-créateur en 2008 de ce club. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors justement, ce club de l'OMCA, c'est-à-dire l'Olympique des membres de Cambrai Amérique. Alors, la définition de cette entité, pourquoi Amérique, et également, ce qui m'interpelle, c'est le logo qui est formidable. Alors, qui a la parole?
Écoutez, je vais commencer. Alors, en fait, au niveau du nom OMCA, c'est parce qu'en fait, on va pas se mentir, on est tous supporters de l'OM, les créateurs. Donc, on cherchait pour qu'on puisse mettre l'OM dans notre nom de club, et donc, Olympique des membres, on a trouvé ça, OM. Puis après, Cambrai-Amérique, parce que Cambrai, c'est notre ville, Amérique, c'est notre quartier. Donc, on voulait une vraie identité au niveau du club. Et ensuite, le logo, c'est un dirigeant de Cambrai, en fait, de l'époque, qui s'appelait le Frédéric Copil. Qui nous a proposé en fait ce logo avec justement le bateau de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. On voit derrière les bâtiments, ça représente bien les deux ballons qui représentent le foot. C'était vraiment conçu pour notre quartier, pour notre club. Et du coup, on l'a apprivoisé. Hein.
Les tours de Manhattan qu'on voit sur le logo, hein, je pense.
C'est ça, c'est les tours de Manhattan.
Et également, l'étoile, disons, qui se trouve juste au-dessus de votre logo, correspond à quelque chose?
Bah oui, je vais laisser parler Jérôme.
Et alors, l'étoile correspond à, on a gagné le challenge de l'offensive à Clairefontaine, rappelle-moi Christophe, l'année.
2010.
En 2010. Donc voilà, cette étoile est apparue par rapport à ça.
D'accord. Donc 2010, à l'origine, il n'y avait pas cette étoile, alors.
Elle est arrivée par la suite, hein, ouais. Donc ouais. Voilà, on l'a rajoutée.
On ne pouvait pas la mettre au début, parce que c'est le club 2008.
Tout à fait.
Elle est à Chalon 2010, donc voilà, c'est arrivé après. Et les deux ballons de chaque côté, parce que, pourquoi deux ballons?
C'est pour le rappel du football, en fait. Hein.
Voilà.
Voilà, tout simplement.
Sachant qu'il y a plusieurs clubs à Cambrai, moi je connaissais que la C Cambrai. Je suis allé une fois au stade de la Libération, et c'était...
Liberté.
En 1972. 1972, où Lens jouait en division 2, hein, on parlait de division 2, et Lens avait gagné le match aller 4-0, et a gagné le match retour 3-1. C'est la seule fois où je suis allé,
D'accord.
Je faisais partie des 1632 spectateurs à l'époque.
Quelle mémoire.
Non, bah, avec Internet, c'est plus facile de trouver. Hein. Voilà, ouais, bon, c'est vrai que c'est un petit terrain, un petit stade, hein, le stade de Libération. Ouais,
c'est la liberté, en fait.
Mais ouais, le stade de la liberté, ouais, voilà, ouais, bien sûr. Donc, la création du club, c'est fait comment? En 2008, c'est récent quand même, 12 ans, dans un quartier défavorisé.
Voilà, bah en fait, moi c'était mon premier club, c'était bah, mon club de cœur. Bah, d'ailleurs, étant jeune, on a joué ensemble, tout ça. Et moi j'étais parti pendant plusieurs années dans un autre club de Cambrai. Et puis, puis j'arrivais en fin de carrière, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur, j'étais déjà entraîneur dans un club d'un autre club de Cambrai. Et puis ça s'est plutôt moyennement passé, donc du coup je suis revenu à la cité. L'ancien club qui s'appelait l'USCA est en train de mourir, tout simplement. Il restait 15 licenciés. Et puis on s'est dit, ben voilà, on s'est retrouvé entre plusieurs amis. On s'est dit, ce serait bien pour le quartier, pour les jeunes du quartier, parce que ben voilà, ils avaient plus rien en fait. Il y avait plus d'équipe jeune, qu'une équipe senior, et encore fallait voir l'équipe senior sans leur manquer de respect. Et donc du coup on s'est dit, ben on essaierait bien de faire quelque chose. On pensait pas que ça aurait pris une telle ampleur en fait. On a commencé à 43 licenciés, on a commencé à intégrer les petits, donc les petits du quartier, on les faisait venir, on faisait des mercredis après-midi récréatifs, hein. Et d'ailleurs c'est même toi qui avais mis ça en place, de Jérôme, parce que quand je dis toi à la radio. Et puis voilà quoi, donc derrière ça a pris de l'ampleur, on a été un peu dépassé par le succès à un moment donné. On se retrouve aujourd'hui avec 300, il a fallu travailler un peu sur l'arbitrage, il a fallu travailler sur les labels, tout ça. Nous on connaissait pas tout ça, et aujourd'hui ben voilà quoi, on fait un petit bout de chemin qui est pas mal.
Donc vraiment c'était un quartier défavorisé à l'époque en 2008.
Ah ben ça l'est toujours, c'est un quartier prioritaire de la ville. Je vais te laisser parler parce qu'en fait Jérôme connaît mieux que moi, il habite vraiment dans le quartier, moi j'habite plus dans le quartier.
Alors dans quel secteur ça se trouve?
C'est dans un quartier bon de Cambrai qui, alors je sais pas, peut-être ça vous parle pas, mais en direction de Caudry, c'est vraiment au nord de Cambrai. Et donc ce quartier, comme l'a dit Christophe, est un quartier prioritaire de la ville, donc forcément avec des minima sociaux, ben malheureusement des familles en difficulté. Donc voilà, nous le club, on a voulu le créer, on a voulu faire du football, mais pas que. On a vraiment un gros impact social maintenant sur le quartier, avec des partenaires comme le service enfance et jeunesse, le centre socio-culturel Amérique. On travaille tous ensemble pour faire sortir ces jeunes de quartier et puis les essayer entre guillemets de les éduquer, de leur donner des vraies valeurs. Donc nous voilà, avec le club, on a vraiment, pendant toutes ces années, toutes ces premières années, on a vraiment fait un gros travail social. On a aidé des gens en faisant des lettres de motivation, des CV, on a aidé des migrants. Enfin voilà, on a vraiment développé tout ça sans penser forcément aux sportifs dans un premier temps. Et après bon ben bah, les résultats sont arrivés, donc on a pu faire de pierre deux coups. Donc voilà, c'est super quoi.
Donc, Monsieur Richer, Amérique. Donc Amérique. Pourquoi Amérique? Vous l'avez dit tout à l'heure.
Alors pourquoi Amérique? Le quartier historique s'appelait le Nouveau Monde. S'appelait Nouveau Monde, et ensuite il a été, bon, je peux pas vous dire l'année, mais il a été renommé quartier Amérique. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce rappel sur le nom du club.
Donc il n'y a pas de tour, là c'est tout des HLM alors.
Ah ben bah, il y a une grande tour, il y a un rappel à ça qui s'appelle la tour Washington.
Ah, la tour Washington, donc d'un nom d'Amérique. Oui, et également l'école en zone d'éducation prioritaire,
l'école
également
Kennedy. C'est ça, voilà. C'est ça.
Alors comme quoi ça parle d'Amérique, hein.
Ah oui, il y a toujours des connotations
Alors, par contre, il n'y a aucune personne qui est de consonance anglo-saxonne.
Ah non, du tout, non, non.
Du tout, du tout.
Non, non, ça n'a aucun rapport. Non.
Aucun rapport.
Non, non. Et d'autres quartiers s'appellent quartier Saint-Roch ou quartier du centre-ville. Non, non, bah celui-là, il s'appelle Amérique. Alors, franchement, l'historique parfait, je le connais pas. Ça date, à mon avis, de l'après-guerre, mais il faudrait se renseigner dessus.
Alors, disons à peu près, disons combien il y a d'habitants à peu près, dans ce quartier, à peu près.
Oula, vous me posez une colle.
Enfin, à peu près, hein. On n'est pas quelques centaines près.
En fait, par rapport au, quand il y a les votes en fait pour les élections et tout. Je crois que c'est 3008, un truc comme ça.
Ouais,
j'ai...
3008.
Et j'allais dire 3000, ouais.
Donc 3008 plus 1000 des enfants, ça fait qu'on arrive à 5000 personnes à peu près, quoi.
Ça doit être ça.
Ouais, bah oui, parce que y en a qui votent pas. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai.
La majorité.
C'est vrai.
Non, mais je prenais vraiment la liste, mais après, avec les enfants qui ont moins de 18, ouais, c'est vrai que.
Ah, ça fait 5000 à peu près. Ouais, ça doit être 5000 personnes. Bon, c'est vraiment un grand quartier quand même, malgré tout.
Oui, ça va, parce que là, en fait, il a été rajouté. Enfin, il y avait un deuxième quartier qui était vraiment juste à côté et ils ont rassemblé les deux. C'était le quartier Proma avant. Donc maintenant, bah, voilà, le quartier s'est associé. Donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de monde. Et voilà.
Alors, Monsieur Richer, avant de parler vraiment de l'OMCA, vous avez cité quelques actions en faveur des personnes, des gens défavorisés. Oui. C'est un quartier prioritaire, il y a beaucoup de chômage, c'est certain qu'on avoisine les 25-40% de chômeurs, peut-être.
C'est ça.
Hein. C'est ça. Alors, quels sont les domaines sociaux qui a mis en place dans ce quartier?
Alors, moi, par le biais de mon travail, parce que je travaille pour le service enfance et jeunesse, et je suis rattaché à ce quartier, justement, donc je fais le lien entre toutes les structures sociales du quartier, d'accord. Donc, on intervient sur vraiment sur tous les domaines sociaux qui peut y avoir malheureusement dans un quartier prioritaire. Vous l'avez dit vous-même, chômage, l'inclusion, exclusion, enfin vraiment, c'est vraiment, on balaye vraiment tout et l'OMCA, voilà, on intervient sur tous ces domaines. Mais bien sûr, après, quand on n'a pas la compétence, on va la chercher auprès de nos partenaires, voilà, avec des assistantes sociales.
Ça va aussi qu'on a réussi à trouver de l'emploi à pas mal de personnes du quartier en fait. Mm. C'est-à-dire, alors après, quelquefois c'est de l'emploi précaire, mais on a aussi des gens qui ont été embauchés par le biais du foot, parce qu'après, bon, grâce aux sponsors, cela, la reconnaissance, on connaît plus de monde. Et puis derrière, ça nous a permis aussi d'aider les personnes du quartier pour de l'emploi et autres. Hein. On cherche vraiment à que les gens soient heureux dans ce quartier.
Donc moi, je pense que le club, c'est créé avec des enfants de la balle, quoi, qui jouaient dans le quartier au ballon, sans terrain, sans rien du tout. C'est un peu ça l'histoire.
C'est ça, et puis un peu des exclus aussi, des jeunes que on voulait pas dans d'autres clubs parce qu'ils avaient pas le profil, mais des très bons jeunes. Mais voilà, que c'était pas en 2008, c'est pas loin, et en même temps, c'était encore une période où y avait encore un peu de mal sur certaines choses. Donc nous, on acceptait tout le monde, on leur demandait une discipline. S'il n'y avait pas la discipline, on ne les gardait pas. Et puis aujourd'hui, ça se passe super bien. Quoi.
Donc l'évolution se sépare depuis 2008. Bon, vous avez démarré au 7e niveau, hein, des 7. Maintenant, vous êtes en D1. Donc vous avez monté en 12 ans de cette division. Ouais. Chez les filles, on va en parler après. Parce que là, c'est superbe. Troisième tour de la Coupe de France, où j'ai joué contre Valenciennes. Hein. Bon, c'est... Puis il y a des... On va en parler. C'est équipe féminine, parce que votre projet, c'est un rattachement avec un peu des joueuses de la Sécambrée qui sont venus chez vous, parce qu'il y a certainement pas de féminines à la Sécambrée, peut-être pas, donc ils sont venus chez vous.
Non, alors c'est l'entente avec la Sécambrée, c'est différente. En fait, nous, on a travaillé sur le foot féminin depuis 2010. La Sécambrée, dans les années 80-90, avait une équipe féminine, mais ils avaient plus aujourd'hui. Maintenant, on a des obligations, quand on est au niveau de la Sécambrée, on a des obligations d'avoir une équipe féminine. Donc, ils avaient pas, nous on avait. On s'entend bien avec eux, ça se passe super bien, le président c'est un ami. On s'est dit, tiens, on va faire une entente. Alors au début, on a voulu faire une entente. Le problème de l'entente, c'est qu'une entente, ça peut pas monter en ligue. Donc, on a fait une convention de partenariat. Donc, on a une convention de partenariat avec la Sécambrée, c'est-à-dire que cette équipe leur appartient autant qu'à nous. Si demain, Cambrai a besoin, parce qu'elle monte en National 3 de l'équipe féminine, on les passe à la CC tout en continuant à jouer chez nous. Nous, ça ne change rien en fait. Mais c'est dans les... Comment on appelle ça, tout ce qui est administratif qui va changer. Mais au moins, cette équipe, elle existe pour les deux clubs. Celui qui en aura besoin aura. Et on a beaucoup d'équipes de jeunes. Donc on peut même faire passer une équipe de jeunes féminine pour la Sécambrée, et ça leur prévoit de pouvoir monter en national.
C'est bien. Donc, au départ, c'était en 2008 que garçon.
Ah, voilà. Que garçon.
Alors, vous avez démarré par une seule équipe au départ ou bien vous en avez deux?
En garçon?
Oui.
Alors, on avait deux équipes seniors déjà.
Déjà?
Ouais. Ça, on a eu du monde. On avait fait des entraînements avant à partir du mois de mai. On a eu pas mal de monde. On a fait deux équipes seniors. Et puis, peut-être un mois après la création, on a commencé à ramener les jeunes. On avait eu tout de suite une équipe U11, il me semble. C'était.
Ouais. Donc la première saison, vous avez donc trois équipes en championnat.
C'est ça. Ouais.
Donc, alors deux en D7, alors étant donné qu'il y avait plus.
Deux en D7. C'est ça. C'est ça.
Dans D7.
Hein. Dans deux groupes différents.
Deux groupes et puis une en U11.
Et une en U11.
Et vous aviez mis en place après une école de football.
C'est ça. Ouais. Un peu plus loin dans le temps.
Hein. Un peu plus loin dans le temps.
On a bricolé au début. On connaissait rien en fait donc. On a bricolé, on a fait des choses, ça marchait pas. On a perdu des générations parce que derrière on n'avait pas prévu de faire les équipes au-dessus. Bon, maintenant on y travaille quoi.
Donc dans le temps, donc depuis 2010. Alors au départ il y avait trois équipes. Alors comment dans le temps ça s'est fait comment pour avoir 300 licenciés à cette époque ici en 2020.
Alors je vais vous répondre parce que je suis un peu à la base de tout ça. Chaque année, oui, on essayait de construire une nouvelle catégorie. Donc chaque année, à partir d'un certain moment, on a eu les U11. Après, on est resté un an, je crois. On est resté comme ça. Et ensuite, chaque année, on s'attachait à créer des équipes du plus petit niveau, enfin U6, U7. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est des enfants de 5-6 ans. Et voilà, U6, U7, ensuite U8, U9, et ainsi de suite. Les U11, on les avait déjà, mais ils étaient passés U12, U13. Et on a construit chaque année comme ça, en prenant notre temps, on n'était pas pressé. Beaucoup nous disaient, il faut construire maintenant. Nous, on a pris notre temps, on est allé crescendo. Et au final, quand vous avez toutes les catégories, le nombre augmente. Et ensuite, les filles sont arrivées, pareil.
Un gros travail de Rudy Boez, en fait, c'est celui qui... Alors, c'est lui qui a pris en main la première équipe féminine. Il y a pris goût parce qu'il connaissait pas du tout le monde féminin. Au début, on l'a mis là parce que bon, voilà. Il était avec le U17 et puis ça se passait moyennement et du coup il voulait arrêter. Donc on s'est dit essaye avec les féminines. Et c'est lui qui a mis en place tout le pôle féminin. Et aujourd'hui on a 90 licenciés féminines. Donc c'est pour ça aussi que il y a beaucoup plus de licenciés qu'à l'époque.
Et de la même manière que les garçons, Rudy est parti de la base et a construit, les filles grandissent et donc toutes les catégories se sont faites. Et du coup maintenant on a toutes les catégories, que ce soit en garçons ou comme en filles. Et on a, je sais plus, une trentaine de dirigeants, dont 15-20 actifs. D'ailleurs je les remercie de leur investissement depuis toutes ces années parce que franchement, on leur dit assez souvent, mais là au moins on profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement. Et donc voilà pourquoi on en est arrivé à 300 licenciés dans un quartier prioritaire. Et c'est devenu une telle base sociale, voilà.
Ouais, donc c'est vrai que vous citez des bénévoles. C'est vrai que sans bénévoles, ils font partie du club, quoi. Voilà.
C'est le moteur. C'est le moteur d'une association, tout simplement.
Les joueurs sont de passage. Souvent, les dirigeants, ils sont là pour des longues durées. Vous voyez, vous à la radio, ça fait 20 ans que vous faites de la radio. Les dirigeants, souvent, c'est aussi cette base de 20-30 ans quand on est bien quelque part. Donc, on espère les garder 20-30 ans. Parce que franchement, on a des super dirigeants. Mais il faut aussi que on les écoute aussi. Il ne faut pas simplement les appeler quand on a besoin et que quand on est embêté. On écoute beaucoup, on discute beaucoup. Tous les dimanches soirs, on fait une réunion depuis maintenant 2013. Et ça se passe bien. Ça nous permet d'échanger et puis d'échanger tous ensemble. Et puis voilà, après, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et on discute, on dialogue et chacun apporte ses arguments. Et souvent, ça se passe bien, quoi.
Il faut savoir qu'au début, le terrain, c'était vraiment mesquin, comme on dit.
Ouais, le premier terrain. Alors nous, on a eu la chance, quand on a créé en 2008, et qu'il y avait déjà quand même l'autre terrain. Quoi. Celui que vous voyez ici, en synthé sur l'image, on l'avait en herbe. Il n'était pas non plus, ça va. Mais bon, on ne pouvait jamais jouer dessus. On n'avait pas de lumière, on n'avait pas la possibilité de jouer dessus. Le week-end, s'il pleuvait, on devait s'expatrier. Derrière le vestiaire, il arrive en 2013. Avant, on avait un petit hangar, mais voilà, c'est des bons souvenirs aussi. Le petit hangar, le vieux terrain, ça reste des bons souvenirs. Tant mieux aujourd'hui qu'on a ça. Mais je veux dire, ça fait partie de notre passé et on l'oublie pas, quoi. C'était.
Ouais. Ouais, voilà. Donc l'évolution s'est faite dans les infrastructures et le nombre de joueurs. Enfin, c'est tout un tout, quoi. Que
voilà, c'est un tout.
Et le club vit bien. Alors, vous avez 300 licenciés. Et combien d'équipes? On démarre 19, par l'école de football.
19. Ouais. On a 19 équipes.
Ouais. 19 équipes.
Alors, en comptant les tout petits. Hein.
Ouais, bon, votre école de football a démarré un peu plus tard que 2008. Hein, en quelle année que vous l'avez créée?
Bah,
c'est pas vieux.
Ouais, non, elle a démarré
2015.
Ouais, vraiment, ouais. Oui. Là, on a été labellisé et tout ça, donc là, on a vraiment construit et là, on a rempli un cahier des charges avec des éducateurs diplômés. Donc c'est pour ça, on a été labellisé par le district ESCO et la Ligue des Hauts-de-France. Et maintenant, même les féminines sont aussi écoles de foot labellisées. Donc voilà, on a vraiment fait un gros travail là-dessus, quoi.
Alors, on va parler des équipes. Hein. Donc, vous en avez 19. Alors, on va commencer par les filles. Hein. Tout honneur, les filles quand même. Parce que bon,
je vais faire les filles, je vais essayer de parler.
Les filles, alors, qui veut parler alors, pour les filles?
Pour les filles, Christophe.
Pour les filles, il y a deux équipes seniors.
Ouais.
On a une équipe U16, une équipe U13, une équipe U11. Et alors après, c'est des équipes de plateau. Donc là, sur les plateaux, il y a bien deux équipes à chaque fois, à peu près.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc là, on est à 7. Et puis après, il y a le. Je vais séparer Jérôme pour le reste.
Donc, ça, sur les 300, il y en a à peu près 80 féminines.
80, je crois qu'on approche les 100, d'autres à 90, 91.
Ouais, donc un tiers à peu près.
Ouais.
C'est ça.
Tiens. Quand même pas mal, bon, ouais. Sachant que l'évolution R1, vous menez le championnat, vous avez gagné ce week-end.
R2 pour l'instant.
Comment?
Monsieur Roussel.
Ah,
R2 pour l'instant. R1, ouais. C'est ce qu'on vise, mais là, on est en R2.
Ah ouais, bien sûr, non, mais je veux dire, bon, j'avais eu le temps, il y a 3 semaines, de parler des résultats, un peu de, bon, j'avais noté que les régionaux, et puis j'avais tombé sur la MCA de Cambrai, et puis j'ai vu le score qui ont battu Verton, je pense, 23-0. J'ai fait le rapprochement sur un match de football de Racing Club de Lens où il avait marqué 35 buts. Hein. Je veux dire, ça m'interpelle quand même, 23-0. Je veux dire, l'équipe en face est écœurée un peu. Je veux dire, comment vous voyez les choses? Moi, je le vois comme ça, directement, quoi. Ils sont humiliés un peu.
Non. En fait, on dit toujours, pour respecter l'adversaire, il faut jouer jusqu'au bout. Donc on a joué jusqu'au bout. En plus, Verton, on a été accueillis comme des dieux. On a franchement, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup. Et là, dernièrement, justement, Jérôme, qui est secrétaire, a reçu un mail de Verton pour nous encourager pour le prochain tour.
Et nous féliciter de notre dernière qualification. Donc c'est voilà. Vraiment
on
un
est
club.
Resté, ouais, on est resté.
Franchement, c'est un super club. Ouais, ouais, très sympathique, très chaleureux, super bien.
Et nous, au début, on prenait 23-0 aussi.
Quand même, ouais, c'est bon, on prend pas 23-0 quand même pas.
Non, mais on a déjà pris des 10-0 quand même.
Ah quand même. Ouais, bon, enfin 23-0. Alors, je veux dire sur les 23 buts, combien que de joueuses qui ont marqué?
Oula.
On a déjà une joueuse qui en a mis 8.
Ah quand même.
Audrey Colas, ouais, qui en a mis 8 en une mi-temps.
Elle est rentrée, elle est venue à la mi-temps parce qu'elle devait pas venir, elle est venue en retard, on l'a mise sur le banc du coup et elle s'est vengée, elle a mis 8 buts.
Deuxième mi-temps encore.
Ouais, ouais en 45 minutes. Ouais.
Ah, c'est quand même bon, une joueuse d'exception. Alors, c'est une bouteuse, c'est
oui, oui.
Ouais. C'est l'avancante, quoi, parfait, quoi.
C'est l'avancante.
Ouais. Ouais, c'est la roublardise, quoi.
Ouais. Ah,
c'est la joueuse de surface.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça.
C'est ça.
C'est
hein.
Le renard.
C'est
ça.
Ouais. C'est elle. J'en perds pas par quoi.
C'est
un
ça.
Peu. C'est ça. Hein.
Ouais.
Bon, Marseille, un peu. On perd pas par. Alors, bon, c'est vrai que bon, après au deuxième tour, vous avez battu, je pense, Longo, hein.
Non,
non, vous avez gagné 4-0, je pense. Hein.
C'est à Fourmi.
C'est à Fourmi, 4-0
ouais,
Fourmi.
Une très belle équipe.
Ouais, Fourmi, donc ils étaient au même niveau que vous. Non, R2.
C'est une équipe qui est en district, mais qui vient de récupérer. Alors, il y a Aulnois Fény qui était en R1, qu'ils ont déposé le bilan, on va dire. Et du coup, ils ont récupéré énormément de filles de R1. Donc c'est vraiment une très belle équipe qui va monter très vite. Quoi.
Alors, le prochain tour, c'est dimanche prochain. Là, aux équipes, disons, une division supérieure, hein, c'est Valenciennes, quand même.
Ouais, c'est bon. le plus gros club du district, avec ouais. Douai.
Ouais. Bon, alors là, vous allez faire le plein là, dans votre stade?
Ben, on l'espère. D'ailleurs, on appelle nos supporters à venir nous encourager, à pourquoi pas créer l'exploit.
Ouais. Alors, chez vous, dans le quartier, comment ça se passe pour ce match, pour la préparation de ce match?
Ah bah dans le quartier, on a nos finales supporters. Hein. Il y a les habitants des immeubles qui vont descendre, qui vont venir, et puis on va préparer ça cette semaine. On a la chance maintenant d'avoir un super synthétique, donc et cette chance on l'a de pouvoir s'entraîner, de jouer sur le même terrain, chose qu'on n'avait pas depuis tant d'années. Vous voyez, parce qu'on pouvait jamais s'entraîner sur notre terrain honneur, donc là on va prendre nos marques. Et on va prendre nos marques et on va préparer de la meilleure des manières ce match phare.
Alors vos couleurs, c'est
bleu ciel.
C'est bleu ciel.
Nous, c'est bleu ciel. Bah oui, il y a toujours un rappel par rapport à l'OM.
D'accord. C'est bleu ciel.
Bleu ciel, oui. Ouais, bleu ciel et bleu marine les bas, ouais.
Tout uni, un bleu, hein, tout uni.
Souvent, c'est le maillot bleu ciel, short blanc et puis chaussettes bleu ciel, mais on a aussi le bas et short, souvent bleu marine aussi.
Alors bon. Donc, on a parlé de l'école de football qui fait des plateaux. Hein. Donc, on a parlé des filles où il y a apparemment, j'ai compté 6 équipes. Hein, ça
7.
7, ouais. 7 équipes. Donc, 7, on a 19. Il reste 12. Hein. 12 chez les garçons.
Donc, il y a deux équipes seniors. Une en D1, une en D3. Ensuite, on a une entente U18 avec un club qui est juste à côté de chez nous, qui s'appelle le club de Rumilly, un club sympathique, à peu près les mêmes valeurs que nous. Une fois, ils nous ont proposé de faire, parce qu'on manquait de joueurs dans une catégorie, eux aussi, on s'est entendu, donc on a une entente dans cette catégorie, U18. Donc, je passe un petit coucou à Rumilly. Ensuite, on a des U16. On a des U15, on a des U14, on a des U13, on a des U11, on a deux équipes U9, on a des U6, U7. On a une école de foot, baby foot, maintenant qui vient juste d'être créée, là, qui prend, c'est des enfants de 3 à 5 ans, donc, imaginez tout ça, je crois qu'on a notre compte. Hein.
C'est ça. Ouais. Alors, vous êtes secrétaire, quand j'ai vu la planification de la semaine, ouais. C'est superbe. Hein. Alors, bon, c'est vrai que la journée la plus chargée, c'est le mercredi. Hein.
Ouais, oui, mercredi, c'est 13h jusqu'à 21h. Tout simplement,
c'est complet.
C'est
hein.
complet. Ouais, on a
c'est complet.
Complet.
Ouais. Ouais. Alors, il y a le terrain. Est-ce qu'il y a un terrain d'honneur synthétique? Est-ce oui. qu'il y a d'autres terrains?
Oui, on a un terrain numéro 2 qui est juste à côté. Enfin, c'est l'ancien terrain sur lequel on a démarré. C'est un tout petit terrain. Mais, enfin, l'ancien club. Hein. L'ancien club qui s'appelait l'USCA, où on a joué. Donc, ce terrain est resté. Bon, il est un peu précaire, mais bon, il nous sert encore. On a le terrain synthétique. On a le terrain Proma qui est juste à 500 mètres à vol d'oiseau de notre site. Et ensuite, on a accès, grâce à la ville de Cambrai et monsieur le maire, on a accès à toutes les structures de la ville. Donc quand on a une surcharge de match, bon là maintenant avec le synthétique on essaie de tout rassembler au même endroit, et quand on a une surcharge de match, deux matchs au même endroit à la même heure, on a accès à d'autres synthétiques de la ville, donc c'est ça qui est bien, on s'entend super bien avec le service des sports, et puis on a une entente assez cordiale avec les autres clubs de Cambrai, donc ça se passe toujours relativement bien.
Parce que bon, c'est vrai, il y a la Cambrai, il y a les Portugais de Cambrai,
ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais, il y a les Portugais de Cambrai, il y a aussi Saint-Roch, donc tout ça réuni en termes de licenciés, croyez-moi, ça fait énormément. Donc le service des sports fait un gros boulot, David Di Liberto qui coordonne tout ça fait un gros boulot là-dessus. Donc mais d'où l'intérêt de s'entendre entre clubs, parce que sinon vous imaginez un peu le chantier que ce serait. Mais bon, chacun a son site, on essaye d'y rester, mais de temps en temps on est obligé de s'expatrier un peu pour pouvoir faire jouer tout le monde quoi.
Donc le terrain annexe, il sert quand même pour
ouais,
jouer.
Il
est aux normes.
Alors il est aux normes pour les petites catégories, mais vraiment district. Ouais. Là ici ce week-end, par exemple, on a un gros plateau du matin en débutant, et on a une triangulaire en U11. Ben malheureusement les petits 11 vont devoir jouer sur le terrain annexe. Donc vous voyez, ça servira encore. Hein. Ça c'est l'inconvénient d'avoir beaucoup d'équipes et puis faut toujours s'organiser.
Ou un deuxième synthé, mais.
Ouais, voilà, il faudrait...
Petite demande, monsieur le maire.
Bon, après, par rapport au synthé, vous avez maintenant un club house.
Ah oui, le club house est arrivé en 2013. Ça a été la première évolution du club. Et c'est un outil formidable.
Ça nous a permis de faire aussi ce club house, les réunions, comme je vous disais, depuis 2013. Donc ça nous permet aussi, nous, de travailler entre dirigeants et puis créer des liens, des petits repas. Des animations, donc il y a des animations belote, il y a eu poker, il y a eu aussi des aides aux devoirs pour les enfants, les jeunes licenciés. Voilà, on s'est servi de ce bâtiment, pas juste pour se dire ça y est, on a un beau truc, on va pouvoir boire un coup après les matchs. Non, on s'est dit c'est un véritable outil, on va l'utiliser pour pas mal de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il est alors là, maintenant il y a le Covid, donc c'est un peu plus compliqué et on respecte un peu tout ça, donc on fait attention. Mais avant le Covid et après, bientôt j'espère, le Covid, on va reprendre toutes ces activités d'animation. On s'est abonné aussi à Bein. Alors maintenant, c'est peut-être plus Bein qu'il faut prendre, mais on est toujours sur Bein.
Oui, Média Sport, ouais, Média Sport. Voilà, ouais. Enfin, par rapport à ça, ouais. Il y a des problèmes. Hein.
Ouais, j'ai vu.
Ouais.
Donc nous, on est abonné à Bein, mais justement pour que la Champions League ou alors des matchs puissent être vus par les gens du quartier qui n'ont pas la possibilité de s'abonner, voire d'avoir une télé parfois. Donc ça, on laisse ouvert le soir. Donc on a toujours un dirigeant qui reste, on a des contrats civiques qui peuvent être là aussi, et puis voilà quoi.
Alors le clubhouse sert uniquement de clubhouse ou bien les vestiaires sont attenants au clubhouse, comment ça se passe?
Les vestiaires sont sous le clubhouse, donc c'est vraiment donc on est en hauteur avec une baie vitrée qui a vue sur le terrain, et puis on a les vestiaires qui sont en dessous en fait.
C'est une belle structure quoi.
C'est un clubhouse de plus de 100 mètres carrés, donc c'est un très très gros bâtiment.
Ouais, quand même. Ouais.
Ah, ouais.
C'est quand même, bah, il fait tout 100 mètres carrés, ouais. Enfin, bon, allez, 50 sur 20. Non, ça fait 1000.
Imaginez, bah, il y a 4 vestiaires. Non. De toute façon, en dessous, il y a 4 vestiaires de 22 mètres carrés, 22, 23 mètres carrés. Ouais. Donc, il fait toute la longueur, vous voyez.
Ouais, donc,
ça fait un grand rectangle, en fait. Mais, ouais.
Alors, la ville de Cambrai, son maire, monsieur François Xavier Villain, vient quelquefois voir les matchs.
Il est encore venu ce week-end, en fait. Il passe, ben en fait on a la chance d'avoir un maire qui est à proximité de ses habitants, et donc il passe un peu partout, et souvent il vient nous rendre visite et ça nous fait super plaisir. Et je pense que c'est par rapport justement à être près de la structure qu'il a vu les efforts et un peu nos contraintes qu'il a un peu investi dans le club et dans le quartier. Après je pense que Monsieur Villain, il fait vraiment le bonheur dans tous les quartiers. Il essaye de faire au mieux pour satisfaire tous les quartiers en partageant les choses en fait.
Ouais. Bon, puis après, c'est un retour sur investissement directement. Ouais. Donc il vient voir un peu les progrès que vous réalisez, et notamment, bon, c'est vrai que par rapport à vos filles,
ouais.
Notamment.
C'est la vitrine aujourd'hui en fait. Il y a les garçons bien sûr. Mais les filles, le fait qu'il y en a très peu dans la région au final, par rapport à des garçons, il y a beaucoup moins d'équipes. Vu les résultats, vu le sérieux, on est passé par toutes les phases, hein. On est passé par la phase Verton. Hein. Donc, mais aujourd'hui, bon, il y a un travail qui est fait, on commence à attirer vraiment des très bonnes joueuses. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait parler, ça fait venir. Et de toute façon, le synthétique, on l'a eu plus vite, je pense, parce que on était plus homologué au niveau de notre championnat féminin. Ouais. Si on a encore plus d'ambition, ben on aura encore été moins homologué. C'est des amendes à chaque fois ou des matchs perdus. Donc, et là, il réagit très vite et franchement, on est super content et on le remercie mille fois quoi.
Donc, avoir une équipe. Votre rêve, c'est d'aller en deuxième division féminine. Bon, il y a encore un bout, mais vous allez y arriver, je pense. Alors, comment vous allez faire pour attirer les joueuses? Comment ça se passe?
Alors, d'aujourd'hui, en fait, nous, les joueurs, sont pas payés. Faut le savoir. Par rapport à dans notre division, voire des divisions inférieures où il y a des primes de match et quelques à la signature par exemple, une de mes joueuses, on lui a proposé 700 euros à la signature, nous il n'y a rien. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une convivialité hors norme.
Ouais, c'est clair.
Les filles s'éclatent. Par contre, nous on paye un repas flunch avant les matchs à l'extérieur. Hier, avant d'aller au logo, on a été au flunch. Bon, le niveau veut ça en même temps, il y a des longs déplacements. Faut qu'on fasse des trucs, ils ont eu un survêtement. Derrière, on les aide dans leur vie de tous les jours quand elles ont des besoins. Après, si on monte en R1, ben oui, là, il faudra qu'on essaye de voir avec des sponsors, avec c'est ce qu'on avait commencé à travailler avec Jérôme on cherche quelqu'un qui peut justement trouver des sponsors, qui peut travailler sur les sponsors. C'est pas évident parce que on sait que les gens ont pas tout le temps, et puis aujourd'hui en plus c'est un peu compliqué, donc mais voilà, après notre ambition c'est d'aller en D2, peut-être qu'on n'ira jamais, Mais si on n'a pas d'ambition, au final, ça sert à rien, autant arrêter.
Ah, bien sûr.
Donc, on va tout faire pour y aller. Et puis, ouais, nous, on pense qu'on va y aller.
Alors, comment vous faites pour attirer de nouvelles joueuses? Sachant que, allez, au départ, quand même, dans votre équipe R2. Donc, du quartier proprement dit.
Ouais.
Combien il y en a?
Du quartier, il y en a
proprement dit, hein.
Trois ou quatre. Après, en comptant les petites, hein, en comptant que les seniors.
Non, je vous dis l'équipe, dans l'équipe féminine, l'équipe première.
Ouais, on en a quatre.
Quatre. Quand même.
Quatre filles du quartier qui sont là depuis le début. Et puis, enfin, vraiment, après en première, il y en a deux. Mm. Voilà quoi. Après, après ça vient de loin. Hein, les filles viennent de loin. Mm. Après, pour attirer, Jérôme fait son plus beau sourire et puis on récupère les meilleures joueuses.
Alors, donc. Tous les ans, où il y en a qui veulent venir chez vous, quoi.
Ouais, maintenant, oui. Avant, non.
Alors, pourquoi parce que par rapport aux résultats, par rapport aux infrastructures. Ouais. C'est tout. C'est tout. Ça.
C'est un tout.
C'est un tout. Alors, bon... comment... qui les... vous les avez vus jouer pour les prendre? Comment ça se passe, le recrutement?
En fait, le monde féminin est très petit, parce que moi, ça fait très peu de temps que je suis dans le monde féminin, et c'est très petit. Il y a pas énormément de clubs, il y a pas énormément de divisions, donc bon, même si ça, c'est en train de s'agrandir, là, les divisions s'agrandissent un peu. Mais après, il suffit de... Et dans une équipe, souvent, il y a toujours une bonne joueuse. Donc dès qu'on joue contre une équipe, on voit une bonne joueuse et que les kilométrages sont pas excessifs, on essaie toujours de rentrer en contact avec et puis pour essayer de la récupérer, quoi, voilà. Puis ce qu'on fait, tout le monde le fait, hein, mais bon, après, quand on est en R2, il faut absolument recruter des bonnes joueuses, et si on veut avoir cette ambition, comme l'a dit Christophe, on veut aller en Ligue 2, forcément ça passe par là. Maintenant, nous, on joue notre atout, c'est la convivialité. On les met dans un confort au club, peut-être qu'on ne trouve pas ailleurs. On leur offre par le biais de sponsors, on leur offre des équipements, tout ça. Donc il y a peut-être pas d'argent, mais il y a du matériel qui est mis à disposition pour elles, et puis et une convivialité, je vous dis, qui est chez nous hors norme, parce qu'on fait vraiment, quand vous signez à l'OMCA, vous signez dans une famille. Donc et ça n'a pas de prix, ça. Vous comprenez?
Donc ça
ils le retrouvent, toutes les filles qui arrivent nous disent là on se sent vraiment bien, on est vraiment accueillis de la meilleure des manières, et ça, il y a pas besoin d'argent pour avoir ça.
Après, c'est le bouche à oreille.
Aussi. Après, les filles qui arrivent, qui ont joué un bon niveau, et qui viennent chez nous, s'ils ont une copine qui leur parle, tu dis, toi, t'as signé là-bas, ça se passe bien, c'est super, nanana, et puis voilà. C'est comme ça que ça se fait, hein. Et dans un monde très petit qui est le monde féminin, ça va très très vite, hein. Vous pouvez récupérer deux, trois bonnes joueuses, sur un mercato, en contactant qu'une, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est ce qui est différent chez les garçons. C'est complètement différent.
Ciblez certains postes.
Ah oui, bien sûr, mais bon. Après, on fait pas la fine bouche, hein, quand il y a deux bonnes joueuses. Après, c'est la concurrence qui prévaut, hein, voilà.
Ah, c'est pas simple. J'avais dernièrement reçu Monsieur Hélard, peut-être que vous connaissez, le président de Rouvroy, hein, qui avait une bonne équipe.
Ah, des deux.
En féminine, des divisions 2, hein, d'accord. Oui. Qui avait deux joueuses américaines. Mmh. Mais je veux dire, après, ça va plus vite à descendre qu'à monter, hein.
C'est ça.
Complètement.
Ah, voilà.
Pour pas aller trop vite.
Ah non, c'est vrai, après, il faut se restructurer petit à petit. C'est après, ça. Il faut le budget, je veux dire, si on commence à payer une joueuse, l'autre va dire, une joueuse, c'est moi aussi, hein, je veux ma galette, terminé. Hein. Et quand on commence à payer, faut un budget. Et justement, votre budget, il est de combien, à peu près?
Nous, aujourd'hui, on a 10 000 euros de subvention pour le club total. Donc, sachant que rien que pour les licences, les mutations, on envoie 4000 euros chaque année à la Ligue. Et encore, je suis gentil. Plus le paiement des arbitres chaque week-end. Faut qu'on se débrouille, en fait, après. Après, on se plaint pas, hein, parce que on sait qu'il y a d'autres structures dans la ville et que derrière, les subventions, faut les partager. Maintenant, aujourd'hui, l'équipe féminine, au niveau où elle va être, avec 10 000 euros, on s'en sortira pas. Ça, c'est sûr. Donc, il faut qu'on trouve. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on voilà, il y a les sponsors, peut-être des aides aussi, hein, peut-être avec le département, avec c'est parce qu'en fait quand on travaille dans le foot féminin ou dans le handicap, en fait on a des aides aussi. Bon, on a, c'est vrai que le levier on l'a pas encore, mais il va falloir qu'on y pense, parce que si on veut aller au plus haut à un moment donné, il va falloir quand même qu'on ait parce que si le dirigeant qui vient, qui prend sa voiture à la fin de l'année, ça lui revient, enfin il perd beaucoup d'argent, il viendra plus. Et la fille pareil, enfin ce qui est normal après. Hein, donc c'est pour ça qu'on prend notre temps en fait. On a pris notre temps jusque là, ça fait 10 ans qu'on est là, on est, j'ai envie de dire seulement R2 en 10 ans. Mais en prenant notre temps comme ça, on a le temps de préparer l'avenir et justement pas se casser les dents. Donc on est confiant.
Sachant que M. Sapper, je veux dire, après si vous montez, les aides, ils viennent automatiquement.
Normalement, oui.
De la communauté d'agglo, du département,
ouais.
De la région.
C'est ça.
C'est automatique.
C'est automatique.
C'est automatique, hein. C'est comme ça, hein. Et on n'y coupe pas là-dessus. C'est automatique,
mais
hein.
Mais c'est vrai qu'on a, on s'est tellement fait nous-mêmes au départ. C'est-à-dire que, on s'est toujours fait nous-mêmes, en fait. On a jamais compté sur personne. Qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous soutiennent. Et là, pour nous, c'est nouveau et c'est génial. Et que, mais on n'ose pas encore quémander un peu à droite, à gauche. Mais on va y venir. Faut pas s'inquiéter.
Bah. Après, le football féminin est quand même maintenant reconnu. Hein.
Ouais.
Voilà, faut l'admettre que, je veux dire, ils ont fait un effort à la télévision. Et il y a les matchs de qui sont télévisés.
Même la D1, voilà. Même les matchs de D1.
Voilà, sont télévisés. Sont...
Hein, Ligue 2, hein.
pas,
Ligue 2 télévisés. Ouais.
Voilà, il y a quelques matchs de division aussi. Ouais. Mais un match, voilà. Mais c'est... Après, on a deux clubs tard, c'est certain. Lyon et Paris, c'est certain. Ouais. Mais bon, là, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est le Qatarien. Puis l'autre, c'est Jean-Michel Aulas qui est aussi qui a des sous à tirer l'arigot. Hein. Bon, voilà, mais je veux dire, mais ça pousse un peu le foot féminin, c'est indirectement.
Ah, voilà,
ça vous
c'est
aide également.
En France, hein, ces deux clubs-là sont les moteurs en France. Et le fait de faire des, bah, comme Lyon, qui soit championne d'Europe pendant X années, forcément, on s'identifie à ça. Les filles ont envie, et donc, il y a des répercussions. Et
aussi la Coupe du
Monde. Aussi pour la Coupe du Monde féminine, quand la France fait un parcours, forcément, il y a des filles qui regardent ça à la télé et qui, comme par hasard, ils frappent à la porte.
Ah ouais,
c'est aussi simple que ça.
Tous les sports qui sont, disons, oui, qu'on voilà, a voilà. des joueurs, des filles, que ce soit en collectif ou bien individuel, dès l'instant que quelqu'un perce, on attire les licenciés.
Voilà.
On pas gagne, mais ça monte en flèche.
Ouais, c'est ça.
Ça monte en flèche. Notamment, le foot, pas surprenant, c'est vrai. Mais le hand avec les garçons et les filles qui sont champions du monde, je veux dire, ça attire. C'est comme ça. Bon, après, j'ai vu sur votre site internet que vous avez la chance d'avoir une journée, il y a Mlacheur et Sucora, JV Boko, tout ça, c'est-à-dire les anciens joueurs du Racing Club de Lens. Alors, à quelle occasion?
Je crois qu'on avait fait ça juste avant les 10 ans du club. En fait, c'était un peu avant les 10 ans. On a eu l'opportunité de faire venir les anciens du Racing Club de Lens, qui nous ont respectés aussi jusqu'au bout. mais en fait, qui sont venus avec vraiment le gros attirail. Donc, nous, qu'on les a connus étant plus jeunes sur le terrain et c'était génial, quoi, de jouer contre Johan Demont, même si...
Qui sortait d'une année, il venait de prendre sa retraite. croyez-moi, on s'en souvient.
Mais même quand on se prend un petit pont par Johan Demont, c'est pas grave. Ça reste un bon souvenir.
C'est vrai que j'ai reconnu quelques joueurs, que j'en connais, hein. Mmh. Le mieux que je connais, il était là, d'ailleurs, c'est Franck Edru, hein.
Ouais,
je le vois minimum 2 fois par mois. Hein.
D'accord. il était là.
Ouais, ça fait jouer au volet, hein. Et comme je suis volé actuellement, je la vois, quoi. Et lui, c'est vrai qu'il a fait une belle carrière, notamment en Angleterre, hein. Donc, comment ça s'est fait pour les faire venir
Ça fait comment à l'époque?
C'est par le biais d'une fête de quartier. C'était la fête du quartier Saint-Druon qui voulait faire un match de gala, nous mettre à l'honneur. Et par le biais, ils avaient un contact dans leur comité. Ils connaissaient un responsable des anciens de Lens. Et voilà comment ça s'est fait.
DJ Sénac, je crois.
DJ Sénac, oui. Mmh. Et ça s'est fait. Nous, on a collé tout de suite. Vous pensez bien qu'une occasion comme ça, il faut sauter dessus. Donc, nous, on a fait tout ce qui était demande pour avoir le terrain d'honneur de Cambrai, le stade de la Liberté, tout ça. Et puis, on a travaillé ensemble sur cette organisation qui a été parfaite. La tribune était complète. Franchement, une ambiance... On s'en souvient encore. Franchement, c'était, il y avait des supporters lensois qui ont chanté tout ça. Franchement, c'était chouette. Bon, le seul hic, c'était le score, quoi.
Ah ouais, mais ça.
Anecdotique, mais bon.
Non, ça, non mais c'est vrai qu'ils ont encore du football, ces gaillards.
Ah ouais, ouais.
On les a eus, hein, ici, à Doha, voilà. Contre les joueurs de Doha. Bon. Hein? C'est vrai que bon, ils ont pris un carton, mais c'est des coqs qui ont le football et puis qui le manient encore avec dextérité, hein. Et voilà. Et puis ils étaient venus quand même nombreux. Ils étaient une bonne vingtaine, hein. Je sais pas si vous, c'était pareil.
Nous sommes venus au grand complet.
On a eu Diop. Je vais regarder comme ça d'ailleurs. Ouais. Il y avait Sénac, il y avait Moreira, il y avait
Demont, Lachaud,
il y avait tout le monde.
Il y avait tout le monde.
C'était ceux qui avaient fait la Coupe d'Europe. Il manquait que le buteur. Là. Comment c'est? Bon, enfin, il manquait quand même.
Buteur de
l'époque. Comment?
Michael Debev?
Non. Non, Michael Debev, il y a Toulouse maintenant, je crois.
Il était buteur contre Arsenal.
La star de Lens à l'époque, là. Je connais par cœur en plus, mais si.
Un croate?
Non, en français.
En français.
Un gitan.
Ah.
Tu vois pas qui?
Je connais aussi, c'est sûr, c'est le plus connu. Mais il est âgé?
Non, il doit avoir. Il doit être à 40. 45 maintenant, peut-être.
Ah bon?
Mais si, il rentrait tout le temps le premier sur le stade, même. Allez-y, parlez, je vais être obligé de regarder pour vous dire.
Je le connais assez certain, mais bon, passons. Donc, c'était une belle fête, quoi.
Ouais. Ah oui, ouais, énorme. Fête.
Mais par contre, plein. Vous avez dû faire ça au stade de Liberté.
Ah oui, vu le nombre annoncé de supporters, parce que les supporters lensois se sont vraiment appropriés ce match aussi, donc ils sont venus. C'était une belle fête, ils ont fait des autographes, des photos. Ensuite, il y a eu une petite réception tout à la fin où ils étaient dispo pour tout le monde. Non, franchement, tout le monde a pris du plaisir. C'était vraiment un super truc.
Ouais, bon. Puis après, bon, vous n'avez pas payé grand-chose. Généralement, ils viennent comme ça.
Ah, ouais, après, c'était le comité des fêtes qui avait tout géré. Hein, donc, ils avaient fait un gros boulot. Nous, on a juste collé le sportif à leur action. On s'est occupé du stade, tout ça, de tout ce qui était sportif. Et puis après, eux, ils ont géré. Après, je ne sais pas comment ils les ont rémunérés, mais bon.
Ils
ne sont pas excessifs.
Ils font ça pour le plaisir. Et puis après, pour la notoriété du club.
Exactement.
Alors, vos projets à venir, bon, les filles montées, hein, c'est certain, là, vous êtes bien partis pour monter en R1, voilà, la saison prochaine.
Le championnat fait que commencer, donc
on va
pas s'enflammer, mais l'objectif est vraiment là. On a l'équipe pour monter.
Ouais.
Maintenant, si on monte pas, c'est peut-être parce que nous, on aura fait des mauvais choix, ce sera peut-être parce que on n'a pas été bon, mais en fait, je pense que si nous on est bon, on va monter parce que on a l'effectif.
Donc vous avez une joueuse Marion Taquet qui est pas mauvaise, hein, qui a joué
à Valenciennes, qui était l'attaquante de Valenciennes, qui d'ailleurs va jouer contre ses anciennes coéquipières ce week-end.
Ouais. Elle est vraiment au-dessus du lot.
Bah disons que Marion Taquet, elle amène une expérience, une technique, une vitesse et une discipline qu'on n'avait pas avant. Et le fait qu'il y ait ce genre de joueuse aujourd'hui chez nous, les autres joueuses se mettent aussi au taquet.
Je ne sais pas si elle est meneuse, mais elle mène la barre de tout le monde.
Elle fait grandir le collectif.
Elle amène à l'équipe. Quoi.
Voilà, et en plus, elle est vraiment simple, en fait. C'est-à-dire que c'est une fille qui a joué comme en D2 à Arras, hein. Avant d'aller à Valenciennes, et d'une simplicité en fait, qui s'est tout de suite collée au groupe. On a quelques filles qui sont vraiment avec ce niveau et cet état d'esprit. Après, nous, le plus important, c'est pas le niveau de la joueuse, c'est l'état d'esprit. Marion, moi, je la croisais depuis des années sur les terrains, je l'embêtais depuis des années sur le terrain pour qu'elle nous rejoigne un jour. Pensant qu'elle viendrait jamais, et au final, c'est elle qui nous a contactés, et derrière, moi je connaissais l'état d'esprit de la fille, c'était vraiment important d'avoir Parce que si elle était aussi forte qu'elle est elle, et avec un état d'esprit, voilà, je suis la star, ça ne m'intéressait pas.
Ouais. Elle amène un plus à l'équipe. Et ouais, puis elle
c'est indéniable.
Je veux dire, elle est simple. Voilà, voilà, bon,
ouais, voilà. Ouais, tout simple.
C'est la joueuse parfaite.
Ouais, voilà. Voilà. Alors, si je veux jouer là-bas, bon, je ne sais pas du quoi, mais comment on fait pour jouer l'OMCA?
Ah bah c'est simple, on a comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un site internet, on peut nous contacter via ce site, on est assez présent sur les réseaux sociaux, la page Facebook Olympique des Mangues de Cambre Amérique, Footeo c'est omca.footeo et ensuite bon, je vous dis on est vraiment sur les réseaux sociaux, on a aussi une page sur quoi, c'est sur quoi une page sur quels réseaux sociaux aussi
Facebook.
Ouais, on a Facebook, on en a un autre aussi.
Bah, on a
qui a été créé par les filles.
On a une chaîne, ah oui, sur Twitter, je crois, non pas Twitter,
Instagram.
Ouais, c'est Instagram. Ça,
après, on a aussi une chaîne YouTube où on a eu les vidéos avec l'école de journalistes de Lille, en fait.
Ouais.
Et là, on fait la partie 2, d'ailleurs.
Et en fait, une dernière question, j'ai oublié. Vous êtes également une école de football à Saint-Luc.
Ouais. On est en partenariat, ouais.
Mais
on
voilà.
En partenariat avec Saint-Luc, ouais.
Ouais, voilà.
Par rapport à Monsieur Rudy Boès, qu'on parlait tout à l'heure, qui est aussi qui est entre les deux, enfin qui fait le lien entre les deux, et puis Monsieur Nicolas Siméon.
Donc, voilà. C'est un bon partenariat, quoi.
Ah ouais, bah nous, on est en partenariat avec avec toutes les structures de la ville, hein, voilà. Ouais. Le travail partenarial est super important, hein, si on veut se développer, et puis voilà. Et être reconnu, voilà. Voilà. Ça passe par là,
c'est certain.
Exactement. Voilà.
Bon, je crois qu'on en a fini, Willy. On vous retrouvera en deuxième heure mes interviews que j'ai faites ce week-end et puis le week-end avant que je n'avais pas passé parce que je pensais qu'en faire un sujet franc sur le Covid, mais non, par rapport à avant Paris les Jeux Olympiques 2024. Mais on va la passer et puis également, j'aurai par téléphone Monsieur François Doucy pour parce que moi j'ai eu directement le jour même l'annulation, mais j'ai dit on va en parler à la radio vite fait pendant 5 minutes par rapport à cette annulation. Voilà. Allez, on se retrouve après 19h pour beaucoup d'interviews que j'ai faites auparavant. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Merci.